73e colloque organisé par Montanea avec l'Alpe. Je dis 73e, c'est en forme de boutade, mais en fait, avec Montanea, c'est un partenariat de longue date que nous avons. Et Monique Marchal, sa directrice, organise donc depuis quelques années déjà des colloques autour des thèmes que nous traitons dans la revue L'Alpe. Le thème d'aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais nous ne sommes pas dans une salle de spectacle en soirée. Le thème d'aujourd'hui, c'est la neige, c'est l'hiver. Le prochain numéro de L'Alpe que vous avez ici en projection s'intitulera « Mon pays, c'est l'hiver ». C'est à la fois évidemment un hommage au poète Gilles Vigneault, poète québécois, qui a si bien qualifié son pays d'un seul mot. Au fond, je pense qu'on pourrait dire la même chose, évidemment, des pays de la Scandinavie, probablement aussi de la Sibérie, de l'Arctique, et puis, au fond, aussi du monde alpin. Mon pays, c'est l'hiver, parce que les Alpes, avec la pente, avec la neige, avec l'altitude, nos anciens disaient 7 mois d'hiver, 5 mois d'enfer, 7 mois d'hiver, longue saison, 5 mois d'enfer, parce que sur les 5 mois qui restaient en dehors de l'hiver, il fallait travailler comme un malade pour réussir à survivre sur ces pentes, sur ces territoires. Et donc je pense que finalement, le mot de Gilles Vigneault s'applique parfaitement aux Alpes. Alors nous allons, ce numéro de l'Alpe n'est pas encore sorti, vous le découvrez là en avant-première sa couverture. Nous l'attendons en fin de semaine ou au tout début de semaine prochaine chez nous au bureau de la rédaction. Nos abonnés seront servis, je pense, en fin de semaine prochaine. Et ce numéro sera en vente en librairie et en kiosque à partir du 2 décembre. Nous avons ici un panel d'intervenants qui ont tous ou presque collaboré à ce numéro avec des approches, vous allez le voir, historiques, géographiques, ethnologiques, artistiques aussi. Nous allons donc donner la parole à chacun d'entre eux pour que vous ayez un petit panorama à la fois de ce numéro de l'Alpe et à la fois de ce qu'est ce que rêve d'être un hiver en montagne et dans les Alpes. Je laisse tout de suite la parole à Pierre-Louis Roy. Pierre-Louis est un auteur renommé des éditions Glénat. Il est aussi un auteur qu'on fait collaborer assez souvent à l'Alpe. Et là, il nous raconte l'histoire d'un petit train qui est arrivé jusque dans une haute vallée de Haute-Savoie. Et ce petit train a désenclavé ce petit coin de montagne des Alpes. Pierre-Louis, à toi.
Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir dans cette ambiance automnale. Avant de parler donc un peu d'hiver, vous verrez avec des images que je vais essayer de vous passer, qui sont quasiment toutes estivales, tellement l'hiver dans la région de Valorcine était peu photographié et détesté. Donc à part ces quelques photos de couverture qui vous montrent la déesse de Fantômas bloquée au col des Montets, qui donne accès à Valorcine, et puis à gauche, une vieille locomotive du chemin de fer de la voie métrique Saint-Gervais-Valorcine, qui tente d'enlever la neige avec des jets de 20 mètres de haut pour dégager la voie. On va voir tout de suite que l'histoire de Valorcine, elle est d'abord estivale. Alors Valorcine, ça veut dire le Val des Ours, et juste pour replacer les choses dans leur contexte et voir en quoi l'hiver joue un rôle particulier dans ce bout de vallée. C'est le Val des Ours parce que c'était une vallée totalement recouverte de forêts, non défrichée, qui pourtant a été connue très très tôt, puisqu'on va le voir un tout petit peu plus tard, dès le néolithique, il y a une colonisation, donc 5000 ans avant Jésus-Christ, de cette vallée. Et pour passer entre en bas à gauche de l'Ours à en haut à droite, l'élevage et puis la moisson, très frugal dans cette vallée qui est en moyenne à 1200 mètres d'altitude, il faudra à peu près 3000 ans. Alors on voit tout de suite qu'il y a des vaches à Valorcine, c'est-à-dire que la terre n'est pas bonne, mais juste suffisamment pour l'élevage, alors qu'un peu plus bas, il y a des voisins suisses qui pensaient avoir pris les bonnes terres puisqu'à moindre altitude, et qui s'avéreront moins bonnes en fait, beaucoup plus escarpées, et eux ne parviendront qu'à élever des chèvres avec quelques vaches autour de Finhaut. Alors que finalement, à Valorcine, qui avait été laissée pour les derniers colons plus tardifs, les conditions de vie sont un peu meilleures. Elles sont toutefois très difficiles. Et elles sont infernales l'hiver, puisque les jusqu'à 600 habitants de Valorcine au début du 19e siècle sont totalement isolés par le nord ou par le sud, c'est-à-dire accès vers la France, accès vers la Suisse, auront la vie difficile, puisque connaîtront systématiquement 7 mois d'hiver, cernés par les avalanches, l'église du village étant plus petite que l'énorme paravalanche construite à la main en mur de pierre sèche pour la protéger. Alors l'histoire de Valorcine, elle est très ancienne, est liée à l'histoire de la vallée du Trien, avec une anomalie qui crée une espèce de Finistère, pas breton du tout, puisqu'il est en Haute-Savoie, hérité du Moyen-Âge et même avant. Vous voyez au milieu, sur cette carte de 1789, hein, l'année de la Révolution, on voit la frontière verte, avec au milieu à gauche Valorcine, donc côté Savoie, et à droite, on voit la vallée du Trien, avec tous ces petits oratoires d'ailleurs, où s'arrêtaient les gens pour prier l'hiver, priant la clémence divine pour survivre aux avalanches. Alors cette frontière, d'où vient-elle? Elle est un héritage, on le voit sur la carte très, très peu lisible en bas à droite, qui remonte à 550, qui est en fait l'année où est fondé le monastère d'Agone près de Saint-Maurice, qui envoie quelques peuples et quelques immigrés s'installer dans le nord de... Enfin, dans la première partie de la vallée du Trien, pour, comme je vous le disais tout à l'heure, défricher, cultiver les terres au profit de l'abbaye. Et donc, dès 550, il y a un peuple que je vais qualifier de valaisan qui remonte la première partie de la vallée. Il va continuer à aller au-delà de cette frontière qui va s'imposer jusqu'à Valorcine, qui est pourtant en territoire savoyard. Et donc, c'est le seul cas où on a en fait une enclave héritée du Moyen-Âge et qui existe toujours aujourd'hui. Sur cette carte moderne, vous voyez qu'en fait, la frontière coupe la vallée en deux. Hein, la vallée est en diagonale comme ça, avec Valorcine en bas et la vallée du Trien en haut. Alors qu'on voit le pointillé blanc, la frontière naturelle, qui est d'ailleurs un principe très tardif, hein, qui date, on pourrait presque dire que la frontière naturelle, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, si je pousse le bouchon. Donc si on suit la ligne de crête, on voit qu'en fait toute cette vallée qui s'écoule vers le Rhône inclut Valorcine et aurait pu ou aurait dû faire partie du Valais. Alors que la vallée de Chamonix, qui est tout en bas de la carte, est donc la vallée de l'Arve qui part vers Genève de l'autre côté du lac Léman. Et donc cette frontière, sur les cartes précédentes on l'a vu, des bandes sont placées dès 1397. La colonisation néolithique, on en trouve des traces à Salvan, au nord de la vallée, donc qui remontent parfois jusqu'à 5000 ans. Et c'est donc un premier peuple, grande bataille d'historiens d'ailleurs, pour essayer de bien élucider qui est venu quand, mais grande bataille de peuple, grande bataille d'historiens, sur un premier peuple valzer qui commence à l'âge de bronze et qui se poursuit ensuite. Et puis une deuxième vague d'immigration qui remonte jusqu'à Valorcine et qui donc a la chance de trouver des terrains un peu meilleurs. Juste une anecdote sur le fait que parfois les caprices de la nature rejoignent cette logique administrative un peu étonnante, c'est que le glacier du Tour que vous voyez en bas et le glacier d'Argentière qu'on ne voit pas, s'écoulait en fait non pas dans la vallée de l'Arve vers Chamonix, mais remontait le col des Montets qui va être le cœur du problème hivernal de Valorcine et s'écoulait justement vers le nord-est pour rejoindre le glacier du Rhône, donc jusqu'à 8000 ans. Le col glaciaire de la vallée de Chamonix était situé plus bas et donc la frontière naturelle aurait été encore plus bas et Valorcine, une fois de plus, côté valaisan. Alors si on sort des cartes où je tentais de vous justifier cette enclave, avant d'en sortir, je voulais juste vous montrer les deux itinéraires qui montrent que Valorcine est isolée. Un itinéraire a priori très facile, qui est en bas, c'est la route qui vient de Chamonix, qui passe le col des Montets, qui n'est pas très élevé, 1450 mètres d'altitude environ, qui paraît très aisé. En fait, le col est parcouru d'avalanches et bloque l'itinéraire du mois de fin octobre jusqu'à avril et mai. Alors qu'au nord, on voit les lacets de la route moderne, on a soit un accès très difficile par les gorges du Trien, donc en suivant la ligne de la vallée, soit on fait un détour par le col de la Forcla, donc itinéraire beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, et qui pourtant sera jusqu'au XVIIIe siècle un itinéraire d'accès à Chamonix plus facile que celui qui existe aujourd'hui par la vallée de l'Arve. Et Frac-Valorcine sera un point d'étape touristique des circuits de tourisme pendant tout le, enfin, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et paraît donc moins désenclavé qu'on ne l'imagine, en tout cas plus accessible depuis Martigny et la Suisse que depuis Chamonix. Ce qui explique d'ailleurs que quand Napoléon arrive là-bas et que l'Empire français se voit annexer le Valais, les Valorcins isolés de Chamonix demandent leur rattachement à l'Empire français, mais en fait au Valais, en espérant que Napoléon, une fois parti, ils resteront rattachés à la Suisse, avec laquelle ils ont finalement beaucoup plus de liens qu'ils n'en ont avec Chamonix du fait de la barrière du col des Montets. Il faut savoir que c'est à Martigny et pas à Chamonix qu'ils vont acheter leur vin. C'est à Martigny qu'ils vont même se confesser avec une église catholique un peu influencée par la Réforme et donc des curés à la confession beaucoup plus souples que ceux qu'ils trouvent à Chamonix. Alors l'itinéraire suisse, là aussi vous voyez que ce ne sont que des photos d'été, aucun témoignage iconographique d'hiver jusque vers 1920-1930. On voit Valorcine au premier plan haut à gauche qui a l'air complètement enfermée dans les montagnes. En fait, de l'autre côté, ce sont les dents de Morcle dans la vallée du Rhône. En fait, pas si enfermée que ça, puisque dès 1840, l'itinéraire vers la Suisse est modernisé. Et donc, même si, comme vous le voyez à droite, les gorges du Trian, qui font quand même 300 mètres de dénivelé, gorges très profondes, sont une attraction touristique, on ne peut pas y faire passer une route. Et c'est en encorbellement en bas à gauche que, par le défilé de Tête Noire, qui devient lui aussi une attraction touristique, la nouvelle route permet à Valorcine d'avoir un accès assez facile vers la Suisse en passant en bas à droite par le col des Montets, par le col de la Forcla, qui est plus haut que le col des Montets, à 1500 mètres, et paradoxalement, parce qu'il n'y a pas d'avalanche, beaucoup plus accessible l'hiver. Donc dès 1840, c'est facile pour les Valorcins d'aller à Martigny. C'est un enfer de passer le col des Montets pour aller à Chamonix. Ce col des Montets, on le voit sur la photo de droite. On voit d'ailleurs très bien que la trace laissée par le grand glacier d'Argentière à l'époque du Wurm, qui, en se dégageant, a fait s'effondrer la face des Chaiseries qu'on voit à droite, en grandes plaques de rochers qui, n'étant plus comprimées par le glacier, tombent et vont céder la place au couloir d'avalanche, la neige s'accumulant en haut à droite et descendant très facilement dans les ravines créées par le dépierrement lié à la déglaciation. Alors sur cette photo du tout début du siècle, vous voyez la nouvelle route qui a été aménagée en 1886 avec une perche qui fait 8 mètres de haut, qui est la moyenne de hauteur de neige qu'il y a l'hiver au col à cause des avalanches, moyenne exceptionnelle pour un col d'altitude assez faible, 1400 mètres comme je vous le disais. Donc à partir de 1886, il y a les diligences qui passent le col et puis après quelques voitures, sauf que tout ça marche, mais pas entre octobre et mai. Alors les Valorcins sont fatigués de leur isolement et dès 1860 regardent avec intérêt une nouvelle bataille et une nouvelle modernité qui arrive, c'est celle du train. La bataille, c'est celle du tunnel du Mont-Blanc, en se disant, tunnel du Mont-Blanc implique ligne ferroviaire à grand débit, ligne nationale, enfin nous serons rattachés à Chamonix et rattaché à la France. On est une commune française en enclave, coupée 7 mois de l'année de la France. Alors cette guerre des tunnels va être perdue pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, puisqu'il n'y aura jamais de tunnel ferroviaire sous le Mont-Blanc. Le Mont-Cenis va lui damer le pion en 1870. En 1882, ce sera le Gothard. En 1891, ce sera le Simplon en Suisse. Il y a un seul ingénieur, qui est un Belge installé en Italie, puisque c'est plutôt en Italie qu'est poussé le projet de tunnel sous le Mont-Blanc, pour désenclaver le Val d'Aoste, qui lui a l'idée de faire un grand Y de carrefour international avec un tunnel sous le Mont-Blanc et puis une branche qui part vers la France et une branche qui serait partie vers la Suisse avec un tunnel sous le col des Montets, un tunnel sous le col de la Forcla. Et Valorcine aurait donc été un petit hameau sur un grand carrefour international désenclavé dès les années 1880. Ben, le projet ne va pas aboutir, puisque celui du Mont-Blanc n'aboutit pas non plus. Et en 1890, les rails arrivent à Saint-Gervais et l'État décide de faire un train plutôt touristique et à prix réduit, donc avec des contraintes techniques plus faibles, pour aller jusqu'à Chamonix. Et personne n'a l'idée de poursuivre et d'aller jusqu'à la frontière. Valorcine reste dans son isolement et le conseil municipal a beau multiplier les requêtes, rien n'y fait dans un premier temps. Et de même que c'est en Suisse et dans le Valais que les Valorcins descendaient le plus souvent, de même ce sont les Suisses qui vont pousser un projet de raccord à la frontière. Le projet de ligne jusqu'à Chamigny est déposé en juillet 1890 et en moins de 3 mois, 4 demandes différentes émanant d'industriels suisses sont faites pour créer une ligne de Martigny jusqu'à la frontière au Châtelard, à 4 km de Valorcine. Avec un chaînon manquant entre Chamigny et cette frontière. C'est donc eux qui prennent contact avec la compagnie des PLM qui est en charge de réaliser les travaux et d'exploiter la ligne côté français. Et c'est la compagnie des PLM qui relaie leur demande auprès de l'État qui tout d'un coup se dit après tout pourquoi pas faire une petite ligne internationale et décide de réduire l'écartement des rails traditionnels d'1,44 m à 1 m pour faire une économie qui va permettre de financer le prolongement de la ligne de Chamigny jusqu'à la frontière suisse. Donc c'est aux Suisses que les Valorcins doivent leur désenclavement ferroviaire. Comme d'habitude toujours, c'est les Suisses qui gagnent. C'est eux qui sont les premiers à terminer leur chemin de fer puisqu'ils les commencent en 1901 quand le train est déjà arrivé à Chamigny en France. Et en moins de 6 ans, ils vont réaliser les études et réaliser les travaux. 3 ans de travaux avec 3 grands tunnels quand même, 2 grands viaducs. Qui constitue une petite épopée pour eux à l'époque, avec des illustrations, vous le voyez en couleur, parce que le train devient une attraction pittoresque, et d'ailleurs, si vous le prenez, plutôt beaucoup plus impressionnant et joli, et pittoresque d'ailleurs, que dans la vallée de l'Arve. Donc en 1906, Valorcine est à 4 km d'une liaison ferroviaire qui le raccorde au Valais, mais toujours pas à Chamigny. Liaison suisse d'ailleurs qui marque l'histoire puisque vous voyez sur cette photo de gauche les 3 étages du tourisme comme on les appelle avec le petit pont tout en bas de l'ancienne route, le pont de la route rénovée au milieu et le pont du chemin de fer qui est censé être le plus grandiose qui est donc achevé en 1906. Du côté français, ça patine. Alors d'abord, le premier projet imaginé par les PLM n'imagine pas une seconde que le train circulera l'hiver. Le tourisme à l'époque, il est estival. Il n'est pas hivernal. Les sports d'hiver n'existent pas. Et ce qui intéresse les PLM, c'est le pittoresque et de desservir tous les hameaux de la haute vallée de l'Arve et de passer le col des Montées à ciel ouvert. Au passage, ça coûte moins cher. Quand le 25 juillet 1901, la ligne est inaugurée à Chamigny, tout d'un coup, le ministre des Travaux publics s'exclame dès le lendemain « Il faut construire un tunnel ferroviaire sous le col des Montets pour pouvoir désenclaver Valorcine, qui sinon reste isolée 7 mois de l'année. » Alors, il y a 3 projets de tunnels différents qui sont examinés à partir de 1902. Un projet qui est le plus en diagonale, qui s'appelle la variante bleue, qui est en gros le tunnel qui sera finalement construit. Un tunnel plus lointain, parce que les PLM rechignent à construire ce tunnel, outre qu'il coûte cher, mais c'est qu'en plus, il ne permet pas de... Il coupe la ligne qu'il tente de prolonger jusqu'à Trélechamps, à mot très joli, pour ne faire commencer le tunnel qu'à cet endroit-là, qui au passage serait aussi un peu plus court, ou bien une alternative de tranchée couverte, qui coûterait moins cher. Au total, tout coûte aussi cher, et c'est 1 million de francs de surcoût à l'époque pour réaliser ce tunnel, c'est-à-dire le quart du coût de la ligne envisagée initialement. Au bout d'un an, le ministre décide de faire, je le cite, un sacrifice et de construire un tunnel qu'il qualifie d'humanitaire, tunnel qui permettra au train de passer, mais surtout aux Valorcins de passer à pied l'hiver. Avec une situation paradoxale, puisque la construction de ce tunnel ne permet d'exploiter la ligne que 15 jours plus tôt dans l'année, et donc de désenclaver Valorcine que 15 jours plus tôt seulement, donc beaucoup de francs pour peu de changements, parce que si le tunnel protège la ligne des avalanches, son accès nécessite de déblayer la voie et que les locomotives et chasse-neige de l'époque n'ont pas les moyens de le faire correctement. Donc au lieu d'ouvrir la voie seulement le 1er juin de chaque année, on va pouvoir l'ouvrir le 15 mai. Tout ça pour ça. Au passage, les Valorcins, qui sont quand même associés au débat public et qui regardent les plans, disent à la sortie, le tunnel est trop court, il faudrait le prolonger de 300 mètres pour éviter un gros couloir d'avalanche. Les ingénieurs répondent qu'ils n'y connaissent rien. Le tunnel sera construit et l'avalanche tombe régulièrement chaque année devant l'entrée du tunnel, ce qui raccourcit d'autant son exploitation l'hiver. Alors, les travaux sont lourds et difficiles. La ligne aurait dû être inaugurée en 1906, elle ne sera qu'en 1908. Les travaux commencent en 1905. Il y a plus de 300 ouvriers qui débarquent sur place. Il y a 600 Valorcins, 300 ouvriers. On constate une augmentation massive de l'achat de chiens des Valorcins qui sont effrayés par l'arrivée de ces ouvriers, qui en fait s'intégreront très bien, certains se marieront sur place. On se pose la question de savoir si l'institutrice ne devrait pas être remplacée par un instituteur pour mieux assurer sa sauvegarde. Et les travaux s'avèrent très difficiles puisqu'il y a beaucoup d'inondations et d'infiltrations dans le rocher. Donc ils durent 2 ans de plus, il y a 5 morts, plusieurs dans des inondations. Un autre qui, en tapant avec son burin sur une mine qui avait éclaté la veille, mais pas totalement, décède sur place. Et les 5 morts sont enterrés à Valorcine. Et comme vous pouvez le voir, le 1er juillet 1908, Valorcine est content, ça y est, l'hiver devrait pouvoir, grâce au train, être vaincu. Pas du tout, c'est l'été que ça marche. Et l'affiche de fiche préhoraire de l'époque dit bien été 1908, parce que la voie n'est pas exploitée dès la fin du mois d'octobre. Donc le tunnel des Montées existe, mais on ne peut pas l'utiliser parce que l'accès pour le train est toujours contraint à cause des avalanches. Alors ce tunnel, il est quand même... je vais peut-être revenir avant, d'ailleurs, il y avait un petit plan. Vous voyez en bas à droite qu'il y a un petit muret avec un passage d'1,20 m de large qui font que pendant presque 40 ans, les Valorcins vont circuler dans cette galerie pendant les mois d'hiver. On y passe les blessés, on y passe parfois les morts, on y passe le médecin dans l'autre sens. Et le Pédon, qui est le surnom donné au facteur, à un système de traîneaux pour porter le courrier dans la neige, qui se retourne dans l'hiver dans le tunnel avec des roulettes qui sont au sommet quand il est sur la neige et qu'il retourne pour pouvoir circuler plus facilement et s'affranchir du 1,5 km de marche à pied à l'intérieur de cette galerie, pas éclairée au début. Il faut l'imaginer, chacun venait avec son éclairage pour traverser le tunnel. Alors il faut encore attendre 20 ans pour vaincre la neige. Là, on a enfin les premières photos d'hiver. Sur la carte de gauche, vous avez un recensement du tout début du siècle qui est assez étonnant, qui est dans les archives municipales de Chamonix et qui d'ailleurs avait été complètement oublié quand ont été revus les couloirs d'avalanche et les autorisations données par le maire. Donc on voit que la vallée de nord au sud, parce que la carte est inclinée, est constellée très rouge, avec le col des Montées en haut à gauche, où il y a une très grosse avalanche qui débouche sur la sortie du tunnel, comme les Valorcins l'avaient indiqué. Alors il faut 20 ans de déboires administratifs et de déboires des eaux et forêts pour réussir à ouvrir la ligne plus tard. En 1913, puis après il y a la Première Guerre mondiale, et à nouveau en 1920, les eaux et forêts plantent des arbres massivement pour retenir la neige en altitude et éviter les avalanches. Des murs de pierres sèches sont construits, on peut en voir encore aux Chaiseries quand on se promène, et sont donc maintenant centenaires. Rien n'y fait, le train va au-delà de Chamonix mais n'atteint même pas Argentière. Donc en 1930, on décide d'investir, sauf que l'État ne le veut pas, avec des projets de galeries couvertes en béton qui nécessitent 2 ans de travaux, qui se sont achevés en 1932. Et l'ingénieur qui les a construits est réveillé le lendemain de l'inauguration de la dernière tranchée couverte parce que l'avalanche est tombée juste à côté et non pas juste au-dessus, et bouche totalement la ligne. Ce qui fait qu'on modernise les locomotives et que c'est seulement en 1936 qu'il y aura enfin un désenclavement de Valorcine l'hiver, non pas du côté de Chamonix malgré la construction de ces paravalanches, mais encore une fois du côté suisse, qui eux arrivent beaucoup plus facilement à dégager leur voie et qui remontent jusqu'à Valorcine, traversent le col des Montées après 2 ans de négociations avec la compagnie de chemin de fer qui ne voulait pas les laisser rentrer en France, et une correspondance à Valorcine qui permet aux Valorcins de ne plus prendre le tunnel à pied, mais de le prendre avec le train. Alors aujourd'hui, pour finir, ce tunnel existe toujours. En 1966, Valorcine est coupée du monde pendant 1 semaine. On n'arrive pas à dégager la voie. On monte le pin en voiture jusqu'à Mont-Roc et les Valorcins viennent par le tunnel le chercher. En 1984, de mémoire, 3 jours d'isolement complet. Donc là, la population n'en peut plus, demande que l'État investisse et prenne le problème à bras-le-corps. Il y a trois études qui sont menées, l'une qui consiste à construire un tunnel routier, l'autre qui consiste à mettre les voitures sur des trains qui passeraient le tunnel, et la troisième à alterner la circulation des voitures et du train en déplaçant la voie latéralement sur la gauche. On le voit sur la photo du milieu, le train passe complètement à gauche et il y a une partie goudronnée à droite. Solution la moins chère, c'est évidemment celle qui est retenue, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des bouchons colossaux quand les Valorsains veulent descendre pendant les mois d'hiver, malgré les avalanches, parce qu'il faut attendre que le train soit arrivé dans une des deux gares, couper le courant électrique qui passe par un troisième rail au ras du sol, pour enfin laisser quelques voitures passer, appliquer, une fois que la préfecture est d'accord, la réglementation de sécurité qui oblige à une distance minimale entre les voitures. Tout ça pendant la demi-heure qui est consacrée aux voitures, le train reprenant après la desserte, 4 à 5 fois par jour. Solution encore un peu bricolée, mais qui devrait être prochainement modernisée, puisque la voie va être totalement refaite, et que si les financements sont là, Valorcine, après plusieurs millénaires d'isolement dans les avalanches, pourra enfin avoir un accès à peu près sécurisé et efficace à Chamonix, commune de France, toujours en partie coupée de la France, mais habituée à son pays qui est vraiment l'hiver.
Si Pierre-Louis, on voit bien en effet que ce pays-là, c'est complètement l'hiver, 7 mois d'hiver, 7 mois d'enfer. Et vous verrez également dans ce numéro de l'Alpe apparaître que d'autres pays sont un peu dans le même contexte. Et j'en pense en particulier à un témoignage que nous avons publié, qui avait été publié initialement par Raoul Blanchard dans la revue de géographie alpine. Témoignage d'une institutrice qui, au tout début du siècle, Aimé Bigalet, est allée enseigner dans une haute vallée de l'Oisans, donc la vallée de la Bérarde, et qui nous raconte ses 7 mois d'hiver, ses 7 mois d'enfer, autour de l'école, avec les enfants, avec le poêle dans la salle de classe, etc. C'est un témoignage très, très poignant et qui, je pense, aurait pu être fait à l'identique à Valorcine. À Valorcine, les avalanches tombaient jusque dans la vallée. On pouvait donc récupérer de la neige, de la glace à portée de chez soi. Dans les Alpes du Sud, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Et avec le développement du tourisme sur la Côte d'Azur, mais bien avant aussi, on aimait agrémenter son casanis d'un glaçon. Et Jean-Loup va nous raconter la formidable aventure des glacières dans les Alpes.
Alors, casanis étant une marque d'une boisson anisée célèbre, merci d'en faire la publicité, c'est ma préférée personnellement. Effectivement, il y a dans les Alpes du Sud, et singulièrement d'ailleurs sur la Côte d'Azur d'où je viens, il y a une vieille habitude qui est, disons, celle du tourisme, c'est-à-dire en fait celle de fréquenter des lieux qui sont peut-être plus attractifs, notamment en hiver, que certaines régions. Tout à l'heure, mon prédécesseur disait que le tourisme est un tourisme d'été dans la montagne, dans la Haute-Savoie en particulier. Le tourisme se déroule l'hiver sur la Côte d'Azur et l'été dans ce qu'on appelle la Suisse, d'ailleurs. Hein, parce qu'à partir du moment où on a passé la Durance, tout devient la Suisse, pour les Niçois en particulier. Et dans notre belle région de Nice, on a pris l'habitude... on a fait une découverte, en fait. Et cette découverte, elle est relativement ancienne. Si je ne me trompe pas, c'est le bouton de gauche, absolument. Elle remonte à l'année 1538, exactement. Nous sommes au milieu, en plein milieu des guerres d'Italie, les célèbres guerres qui, en fait, n'ont pas grand-chose à voir avec l'Italie, sinon qu'elles s'y déroulent en large partie, qui sont une longue période d'hostilité, de combat entre le royaume de France et l'Empire, incarné par Charles Quint. Et à un moment, en 1538, donc, le pape essaye de réconcilier, je dirais, ces deux ennemis à peu près irréductibles en leur disant, bon, maintenant, ça suffit, vous saignez à blanc la chrétienté, vous faites des guerres un petit peu partout, c'est monstrueux. Donc, on va essayer de se réunir. On se réunit sous mon égide, dit le pape, Paul III. Je vous invite tous les deux, Charles Quint et François Ier, à vous réunir à Nice. Pourquoi à Nice ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une ville qui est dans la dépendance, dans la mouvance, qui appartient à l'État de Savoie. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement neutre, puisque le duc de Savoie est un proche parent de François Ier, dont il est le neveu. Et en même temps, il est un des protégés de Charles Quint. Ce qui veut dire qu'avec le pape qui s'en mêle, on doit pouvoir trouver un terrain un peu neutre, un terrain d'entente et de conciliation. C'est un acte politique qui aurait pu être intéressant, qui n'a jamais existé finalement que dans la vie idéale conçue par ce brave pape. En effet, lui, il a débarqué à Nice. Il a débarqué à un endroit où l'on a construit le petit monument ultérieurement, quelques années plus tard d'ailleurs, le petit monument que vous voyez là, qu'on appelle la croix de marbre. À Nice, on n'a pas beaucoup d'imagination. C'est une croix à l'étang marbre, on l'appelle la croix de marbre, avec ce petit édicule. Et vous le voyez, la dédicace, en fait, qui rappelle donc les noms des consuls et des responsables de la ville qui l'ont fait construire en 1568, donc 30 ans après le débarquement du pape dans ce quartier qui est, si vous connaissez Nice, le quartier de la Buffa. Pendant ce temps, François Ier, lui, il habite à Vence ou à Villeneuve-Loubet, parce que c'est chez lui, c'est dans son royaume, c'est de l'autre côté du Var qui fait la frontière entre la Savoie et la France. Quant à Charles Quint, lui, il a obtenu de venir, puisqu'il est venu en bateau, il est venu d'Espagne, il est venu en galère, c'est pas lui qui ramait, et il a débarqué à Villefranche, qui est donc le port militaire, la grande rade de Villefranche, qui est juste à côté de Nice. Ce qui fait qu'il y en a un en France à Vence, il y en a un à Nice proprement dit, et il y en a un à Villefranche. Donc ils ne se sont jamais rencontrés. Voilà. Mais si eux-mêmes ne se sont jamais rencontrés, ce congrès de Nice a quand même existé, puisqu'ils étaient accompagnés. Ce genre de personnage ne se déplace pas sans avoir une armada de conseillers, de serviteurs, de courtisans, etc. etc. Et donc, ces gens-là, eux, se sont bel et bien rencontrés, ont tenu des conférences et ont fini par signer une trêve, la trêve de Nice. Et trêve de Nice qui a été rompue 2 ans plus tard exactement, c'est vous dire l'importance diplomatique de l'événement. Mais ce n'est pas du tout l'importance diplomatique qui nous intéresse, c'est ce que ces gens ont découvert lorsqu'ils sont arrivés à Nice. Ils sont au mois de mars, à l'époque, en 1538. Ils découvrent une ville qui ne ressemble pas tout à fait à ce que vous voyez là, qui est évidemment un peu plus moderne, en particulier l'observatoire en haut à droite n'existait pas, mais surtout ils découvrent que dans cette ville, pas très très loin finalement, il y a des montagnes et que ces montagnes, elles sont suffisamment enneigées. Or, ces gens-là viennent d'Italie du Sud, viennent d'Espagne, ce sont les gens qui accompagnent le pape et qui accompagnent Charles Quint, et ils ont des habitudes très méditerranéennes de déguster peut-être des boissons alcooliques et anisées déjà à l'époque, je ne sais pas, et pour en affiner la dégustation, d'y placer des petits morceaux de glace ou de rafraîchir l'eau avec lesquelles on va les rallonger. Et c'est tout simple, ils envoient des gens, des serviteurs, dans les montagnes pour aller chercher et leur ramener de la glace. Et là, les Français qui, eux, accompagnent François Ier, alors il faut voir qu'ils viennent du nord de la France, là, ils font une découverte, ils sont absolument impressionnés. Et toutes leurs relations sont pour dire que ce sont vraiment des gens que l'on aurait cru moins efféminés que d'avoir à rafraîchir leur vin, en particulier les fruits qu'ils dégustent dans toute la journée, d'avoir à rafraîchir un tas de choses avec de la neige, avec de la glace qu'on envoie chercher dans la montagne. Ça les impressionne beaucoup. Et immédiatement, ils disent, ce sont des mœurs quasiment dépravées, il faut bien le dire. Ce sont des gens qui ne sont pas dignes de foi. Ce sont des gens vraiment sans intérêt aucun. Ils n'ont rien à voir avec nous. Et de toute façon, et alors là, bien évidemment, vous avez la cohorte, notamment des médecins, des médicastres du temps, qui disent, vous avez bien raison, il ne faut surtout pas consommer de la glace ou de l'eau de glace, c'est-à-dire de l'eau de fonte de la glace. Il ne faudrait surtout pas consommer ça. C'est très mauvais, ça va vous tordre les l'estomac, les intestins, le cerveau, les poumons, ça va vous bousiller complètement. Donc, n'essayez jamais de faire cette chose-là. Ça, ça marche pendant quelques années. Malheureusement, le pli est pris. Il faut voir qu'en 1538, dans ce congrès de Nice, dont je vous disais que l'importance diplomatique est à la limite du dérisoire, en fait, il a une importance culturelle extrêmement élevée dans notre histoire. C'est que c'est trois grandes découvertes qui ont été faites à ce moment-là, notamment par les Français, et qui dit Français à l'époque dit l'ensemble de l'Europe du Nord, hein, bien évidemment. C'est la glace pour rafraîchir notamment les boissons. C'est la fourchette pour manger, sans manger avec ses doigts. Ça, c'est quand même important. Et c'est le violon. Le pape a fait venir ses violonistes de Milan pour divertir ses invités à Nice. Et c'est la première attestation historique que l'on ait, la première mention historique que l'on ait de violon pour exécuter de la musique. Donc nous avons là trois des composantes essentielles. Hein, déguster son pastis avec un glaçon dedans, manger des petits fours avec une fourchette, le tout en écoutant un concerto de Vivaldi par exemple. Eh bien nous sommes à l'apogée de la culture occidentale. Et ceci est quand même dû à la présence de montagnes en arrière-plan de Nice. Et là du coup on va dire, pas uniquement à Nice, on va s'apercevoir que c'est finalement pas du tout désagréable et que ça peut marcher toute l'année, notamment, bien évidemment, pendant la saison chaude. Donc, on va commencer à développer des systèmes de production et surtout, bien évidemment, de conservation de la glace. La glace, je n'ai pas besoin de vous raconter ce que c'est. Ça a un gros défaut, c'est que quand il fait chaud, ça fond et ça retourne en eau. Donc, on va essayer de trouver des moyens de conserver cette glace, c'est-à-dire de la fabriquer pendant la saison froide. En fait, elle se fabrique, bien évidemment, naturellement, de la stocker dans des endroits où elle pourra se conserver, si j'ose dire, au frais, et de venir la prélever pour la saison chaude, donc de la débiter en morceaux. Et on va utiliser, on va créer, construire. Alors construire, c'est d'abord creuser, bien évidemment, comme vous le voyez ici, ce que l'on appelle des puits à glace, comme celui-ci. Alors c'est un immense trou, hein, ça fait à peu près 8 mètres de diamètre. Hein. Ça fait, il doit faire, parce que le fond est rempli de feuilles mortes, c'est assez délicat, mais il doit faire à peu près entre 10 et 12 mètres de profondeur. Et il y a, vous le voyez, sur la partie droite, il y a une sorte d'escalier, c'est-à-dire que la muraille périphérique qui est en pierre sèche, hein, parfois en énorme bloc d'ailleurs, elle se dégage, enfin les deux extrémités de la circonférence ne se recouvrent pas exactement mais sont jointives de manière à avoir une série de petits degrés qui permettent donc de descendre tout simplement. Et dans ce puits à glace, on va stocker pendant toute la saison hivernale. On débite de la glace, alors partout où il y en a, hein, dans les flaques, dans les rivières, dans les ruisseaux, etc., etc. Et cette glace, on la balance là-dedans, on la pile bien pour qu'elle soit assez compacte. Et puis après, la belle saison, avec des pics, avec des scies, avec toutes sortes d'instruments qui n'ont rien d'ailleurs de bien spécifique, on va venir débiter cette glace. Après ça, on va la rouler dans des toiles, en particulier de la toile de jute, hein, qui contient, qui absorbe et qui retient bien l'eau, donc que l'on mouille. Et ces pains de glace, on les charge sur des mulets. Et on les amène en ville. On les amène en ville. Là, nous sommes dans des glacières qui ont dû servir notamment pour Monaco. C'est une région, Lucéram, c'est un village qui se trouve dans la vallée du Paillon, au-dessus à quelques kilomètres de Nice, 17 ou 18 kilomètres. Là, les glacières sont un petit peu plus loin. Mais on pense que la zone de chalandise, disons, était plutôt sur Menton et Monaco, parce que c'était là que les routes étaient les plus accessibles. Je vous rappelle que Menton faisait partie de la principauté de Monaco. Hein. C'était la principale ville de la principauté. Donc des glacières, pardon, des puits à glace comme celui-ci. Entre le chargement et la livraison, on estime que selon le temps, selon la période de l'année, hein, la température, on voyage évidemment de préférence la nuit, bien sûr, pour profiter d'une certaine fraîcheur. Mais si on voyage la nuit au mois d'août, il ne fait pas sensiblement beaucoup plus froid dehors que dans la journée, la nuit. Et donc, il y a une perte énorme que l'on estime donc entre 30 et au moins 50 %. Mais comme ça n'a rien coûté d'autre, finalement, que de fabriquer ça, et ça, c'est de la main-d'œuvre, enfin, à l'époque, tout le monde sait faire ça, hein, ce n'est pas très, très compliqué. Donc, de toute manière, c'est, selon l'expression, c'est tout bénéfice. Hein, on a assez de l'eau qui s'est gelée toute seule, qu'on a conservée là-dedans et que l'on transporte et on la vend. Et évidemment, on la vend selon la saison et selon la quantité et selon la demande, on va la vendre plus ou moins cher. Donc, c'est un petit profit supplémentaire qui est acquis aux montagnards, aux gens de la montagne niçoise. Ça n'est jamais très très haut en altitude, hein. Ça se situe aux alentours de 1000 mètres, pas plus, hein. C'est-à-dire une région, une zone où l'on n'est pas menacé par des chutes de neige considérables. Il tombe de la neige à Lucéram, mais ça ne reste pas très très longtemps. Et par contre, il fait suffisamment froid pour que l'eau se prenne en glace pratiquement toute la nuit, toutes les nuits, pendant une longue saison. Et cette glace, une fois qu'elle est amenée en ville, eh bien, elle va être distribuée, vendue évidemment, aux gens de la bonne société, c'est-à-dire ceux qui ont le plaisir de pouvoir s'adonner à la dégustation de boissons anisées ou pas, rafraîchies. Et on va utiliser pour ça ces récipients que l'on appelle des rafraîchissoirs, tout simplement, qui ont cette particularité, vous le voyez, d'avoir des encoches tout autour, hein, donc sur la périphérie, parce qu'on continue d'écouter quand même les conseils des médecins et de dire qu'il ne faut pas boire directement l'eau de fusion de la glace. En fait, ce qu'il faut, c'est rafraîchir, comme, dit-on, le faisait Néron, vous voyez que ça nous remonte à vieux, donc de rafraîchir le récipient dans lequel on va déguster son vin, par exemple. Donc on rafraîchit le verre ou la carafe, et après on verse la boisson dedans, et donc elle va du coup se rafraîchir en absorbant, en échangeant finalement sa température avec celle du verre. Donc il y a des rafraîchissoirs individuels, comme celui que vous voyez tout à fait à droite. Il y en a pour une série de verres, alors on pourrait compter les encoches, ça doit faire 10 ou 12. Il y en a pour des services de table, je dirais, plus importants. Parce qu'une fois qu'on a fini son verre, on le remet dans le rafraîchissoir. Le rafraîchissoir est rempli de glace pilée, donc on replonge son verre là-dedans jusqu'à la dégustation suivante. Et on a comme ça des rafraîchissoirs de différentes formes, de différents modèles, comme celui que vous voyez en haut à gauche, qui est en ébéniste, un petit coffre en ébénisterie et en plaquage. Et il contient une cuve en zinc soudée, en tôle de zinc, qui permet donc de contenir la glace. Et vous voyez, il y a des petits anneaux qui permettent de sortir la cuve de la pièce elle-même, qui, grâce aux petites poignées qu'on aperçoit sur les côtés arrondis, peut être transportée sur la table. C'est le cas assez tardivement, comme vous le voyez, avec cette curieuse faïence qui est conservée au musée de Grasse. Ce sont les faïences un peu tardives de Provence qui servaient à faire ça. Alors, ça marche assez bien quand on est dans la montagne. Relativement, on sait qu'on a des ressources en eau dans la montagne, je veux dire par là, pas, je vous le rappelle, tellement en altitude, mais un relief un peu particulier. Ce relief, on ne le trouve pas partout dans la Provence et dans les Alpes méridionales, puisqu'il y a des endroits où l'on a affaire à ce qu'on appelle les plans, c'est-à-dire des grands plateaux. Hein. En fait, ce sont d'immenses couches de calcaire qui sont pas vraiment horizontales, mais qui sont à peu près plates. Et ces grands plans de Provence, on connaît Canjuers, on connaît Valensole, etc., etc. Ils ont cette particularité que les eaux de ruissellement finissent par créer des poches d'argile. Parce que sinon, le calcaire, c'est comme une éponge, hein, ça se creuse très facilement. Il y a des réseaux karstiques absolument extraordinaires et souterrains auxquels on accède plus ou moins difficilement. Mais en surface, pratiquement, il n'y a pas d'eau qui soit retenue, d'où la maigreur des pâturages qui ne peuvent vraiment servir qu'à des moutons et encore des brebis de bonne volonté. Alors, quand il y a des poches d'argile, qui généralement sont un peu dans des cuvettes, hein, finalement, sur ces plans, eh bien, l'eau va venir s'y accumuler et y stagner. Vous en avez un exemple sur la photo d'en haut, qui date des alentours de 1860. Donc, vous avez une inondation du terrain, et l'eau va rester là en permanence. Et cette inondation du terrain, ça se trouve à Saint-Césaire. Saint-Césaire, c'est à 10 ou 12 km de Grasse, à peu près. C'est un village qui est à 800 mètres d'altitude, pas plus. Hein. Grasse est à 500 mètres et Saint-Césaire est à 800 mètres. Mais par contre, il y fait extrêmement froid parce que c'est en plein vent, parce qu'il y a un peu d'altitude, parce que c'est ouvert à tous les courants, etc. Et l'eau qui va venir stagner dans cette cuvette va se prendre en glace. Le matin, il suffit de venir débiter ça à la pioche, hein, tout simplement, et balancer ça soit dans les puits. Alors, vous en voyez sur la photo du bas, c'est le même endroit. qui est photographiée, mais la photo en haut, c'est une plaque, évidemment, et elle a été inversée au tirage. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait la retourner, si vous voulez, pour avoir exactement la même chose. Vous voyez sur ce petit édicule à droite, là, avec sa margelle qui a depuis disparu, il y a une sorte de grande porte et il y a un abreuvoir à droite. Eh bien, vous voyez, vous le retrouvez en bas, évidemment, il est à gauche, hein, tout simplement. Donc, il y a ces grands bassins creusés qui sont des puits à glace, comme celui que je vous montrais à Lucéram, qui sont creusés dans le sol, qui sont maçonnés, c'est-à-dire en fait avec des blocages de pierres sèches, et on balance là-dedans les morceaux de glace. Ça, c'est très bien tant qu'il ne fait pas trop trop chaud, mais après, cette glace va évidemment assez rapidement fondre, donc on la protège en construisant ces petits édicules qui n'ont pas de nom très précis. On les appelle des puits, tout simplement, donc qui sont couverts avec cette calotte conique et qui étaient soigneusement maçonnés. Là, c'est de la pierre maçonnée, de manière, évidemment, à concentrer au maximum l'humidité, bien sûr, mais aussi la fraîcheur de la glace qui est contenue à l'intérieur. Et puis après, grâce aux portes, et vous voyez que pratiquement tous sont munis de portes, donc ce ne sont pas des puits pour aller puiser de l'eau, ce sont des portes d'accès pour aller exploiter la glace qui est à l'intérieur. Et ça a très très bien marché jusqu'au moment où on a inventé des systèmes qui permettent de fabriquer la glace. Ici, vous avez un schéma qui est extrait d'un ouvrage édité par le musée de la glace qui se trouve à Mazaugue. Mazaugue est un petit village à quelques kilomètres de Brignoles dans le Var, sur la pente nord du massif de la Sainte-Baume, hein, la célèbre grotte où, dit-on, selon la légende provençale, s'était réfugiée Marie-Madeleine. Et sur la partie nord, donc vous voyez que là, Brignoles, c'est dans la plaine du Var, hein, c'est vraiment, il n'y a pas du tout d'altitude, et Mazaugue est à peine un petit peu plus haut, mais Mazaugue, ce village, exploitait des glacières dans la région de Pivot. Pivot se trouve à peu près à 800 mètres, entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Et là, ce sont des glacières considérables, énormes, qui ont justifié d'ailleurs la création de ce musée, parce qu'il s'agissait en fait d'alimenter toute la région de Toulon. Et Toulon, c'est là le grand port français en Méditerranée, le port militaire. Les officiers qui sont là demandent, et leurs hommes de troupes aussi d'ailleurs, demandent à toute force à avoir de la glace. Et on a des règlements qui précisent que les glacières de Pivot doivent être entièrement vendues, enfin leur production doit être entièrement vendue à Toulon. Alors bien évidemment, tous les fermiers titulaires du privilège, peut-on dire, d'exploiter la glace, vont s'ingénier à élargir un petit peu leur territoire, mais ils sont sévèrement contrôlés et surveillés. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez sur ce schéma exactement comment fonctionnent ces glacières. On a la glacière proprement dite, elle est ronde, hein, vous la retrouvez en bas, donc elle a cette forme un petit peu de tour avec sa coupole de couverture. Pardon. Elle est au bord d'un chemin. Il y a, accolé à la glacière, il y a un atelier. L'atelier, c'est un petit hangar, hein, simplement, où l'on va conditionner la glace. Et surtout, sur la partie droite, vous voyez le petit ruisseau qui va être détourné de manière à venir alimenter les bassins de congélation, qui sont des bassins entouré de murettes, vous la voyez représentée en bas, ce sont des murettes qui font quelques centimètres, hein, ça fait pas 30 centimètres de hauteur. Donc il y a simplement une couche d'eau, une pellicule d'eau qui est déposée là, mais évidemment, dans la nuit, elle est gelée, et le matin, on la prélève et on la balance par l'ouverture que vous voyez tout à fait en bas, sur la droite, donc, de la petite lanterne, finalement, de la glacière. Donc, il y a une grande ouverture. On balance les blocs de glace là-dedans. Et à la belle saison, il suffit que de rentrer par la porte qui est de l'autre côté, donc du côté de l'atelier, pour exploiter la glace et aller la vendre à la ville. En 1852, on trouve le moyen de fabriquer la glace. C'est-à-dire que là, on ne va plus être dépendant de la production naturelle, si vous voulez. Tout le processus jusqu'à présent consistait à prendre de la glace naturelle et à la conserver, finalement, à trouver le système pour la conserver le plus longtemps possible. En 1850-52, on invente des moyens de fabriquer la glace, notamment en jouant sur la pression. Et à partir de là, la glace industrielle va être produite directement dans les villes par des glacières industrielles électriques, notamment. Et ces glacières industrielles vont livrer à domicile. Alors là, on a des camions frigorifiques, etc., qui vont apparaître. Et on va livrer des gros pains de glace que probablement vous avez connus comme moi, que l'on va placer dans ces armoires, qui sont des armoires extrêmement, enfin tout à fait hermétiques et pourvues d'un certain nombre de doublages qui vont faire que la température à l'intérieur va s'équilibrer avec la température des pains de glace que l'on y place. Ça a duré jusque après la Deuxième Guerre mondiale, dans la période pour nous des années 50, où l'on a commencé d'utiliser les réfrigérateurs domestiques que nous avons tous désormais dans nos maisons. Donc il y a une véritable ruine qui se produit de l'exploitation de ces glacières artificielles, mais utilisant une production naturelle, et qu'on trouve partout, hein, tout autour de la Méditerranée, en Espagne, en Turquie, dans le Maghreb, etc., etc., hein, partout. Donc partout, parce que c'est très méditerranéen que de vouloir à tout prix, là où il fait un peu plus chaud, consommer un peu plus frais. Ça fait partie de ces absurdités de l'homme qui, quand il fait chaud, il veut avoir froid, mais quand il a froid, il faut qu'il ait chaud. Mais c'est une absurdité de principe, dirais-je, parce que l'homme est le seul qui puisse effectivement se donner les moyens de parvenir à ça. C'est ce qu'on appellera le progrès industriel qui nous vaut de pouvoir déguster notre Casanis avec des glaçons et qui me vaut, avant de vous en faire une démonstration, si vous le souhaitez, de vous remercier de votre aimable attention. Merci.
Merci Jean-Loup. Formidable aventure, non ? Les Alpins sont des gens très astucieux. Finalement, ils réussissent à faire plein de choses avec 7 mois d'enfer, puisque leur été, même leur été, c'est l'hiver. Je te remercie pour ce regard un petit peu en biais, comme on aime bien à l'Alpe sur l'hiver alpin. On va changer tout à fait de registre maintenant. L'an passé, à la même époque, Jean-François Lyon-Camp, ici présent, architecte et enseignant à l'école d'architecture de Grenoble, nous invitait, Dominique, mon adjointe et moi-même, à aller rencontrer un très grand personnage de l'architecture en Pays de Neige, qui est Laurent Chapy. Laurent Chapy est un monsieur qui a 15 ans aujourd'hui, installé à Chambéry, qu'on aurait aimé voir ici, mais évidemment, on va le voir en image mobile, puisque Jean-François nous a ramené quelques films qu'il a tournés avec lui. Et surtout, Jean-François va nous parler de ce personnage qui, à 95 ans encore, a arpenté évidemment toutes les montagnes du monde, toutes les stations de ski, de sport d'hiver du monde, en a construit en France. Et surtout, ce qui est tout à fait touchant, pense encore aujourd'hui à créer une sorte de Villa Médicis des Neiges, en tout cas rêve à ce que pourrait être un autre hiver alpin pour les dizaines d'années à venir. Jean-François, à toi.
Oui, merci Pascal. Excusez-moi, j'ai un problème de voix ce matin, donc je ne serai pas très long, et je suis venu avec quelques images tournées au mois de juin lors d'une conférence que nous avons organisée avec au Conseil général de la Savoie, en présence de Laurent Chapy, pour qu'il expose son travail qu'il est en train de mener et qu'il appelle la montagne humaniste, et dans lequel il développe cette idée qu'a évoquée Pascal tout de suite de Villa Médicis à la montagne. Alors, peut-être quelques mots pour présenter Laurent Chapy, qui ne se présentera pas tout seul dans ces images que je vous ai apportées, pour rappeler qu'il est né en 1915. Il s'excuse d'abord de ne pas être là, parce qu'il est chez lui, mais il travaille. Et donc, il est né en 15 à Aix-les-Bains. Il étudie en architecture à Grenoble. Il découvre la montagne et le ski au milieu des années 30, à l'époque où naît le ski de descente, et grâce à l'invention de la remontée mécanique pour skieurs. De 40 à 1945, Laurent Chapy est prisonnier de guerre pendant 5 ans en Autriche. Cet épisode, enfin ce temps long, formera et contribuera à former son caractère très fortement. de résistance et de recherche de liberté. Il y soutient en captivité son diplôme d'architecte et prépare un diplôme d'urbanisme autour d'un projet d'aménagement de station de sport d'hiver entre M et Saint-Michel-de-Maurienne à l'aide de cartes que les prisonniers d'hier l'armée française peuvent recevoir parce qu'il y a une grande documentation. En 1945, au sortir de la guerre, il est chargé ici à Chambéry par le Conseil général de la Savoie de l'élaboration du programme d'aménagement des trois vallées que le Conseil général met en œuvre immédiatement après sa reconstitution à la Libération. Il imagine la création de la station à la convergence des pistes de ski et non à partir d'un village existant. Et il invente là le concept de station ex nihilo. Avec son camarade Denis Pradel, qui est disparu en 2009 à Chambéry, architecte urbaniste, qu'il rejoint en 1946, ils mettent en œuvre la station de Courchevel 1850, qui est conçue comme une station nature pour des vacances, dont l'organisation, aussi bien du point de vue de l'urbanisme que de l'architecture, repose pour la satisfaction du skieur, du sportif, du plus grand nombre, et d'abord adapté aux périodes de neige, soit environ près de la moitié de l'année à l'époque. C'est donc à une révolution dans l'art d'habiter à laquelle ils sont confrontés au début des années 50, résider en montagne sur un versant nord, là où les gens jusqu'à présent habitaient très peu, à une altitude élevée, donc avec un fort enneigement, en vue de parcourir la montagne en hiver sur la neige avec des skis, réalisés en son temps en un temps très court, un ensemble cohérent réclamant ainsi la maîtrise foncière et la maîtrise d'un projet d'ensemble éminemment collectif. Donc du jamais vu et préoccupé de fonctionnalité, Laurent Champy n'en est pas moins soucieux d'une nature préservée pour laquelle il connaît la magie du manteau neigeux pour le ressourcement et le dépaysement de l'homme citadin qu'il est avant tout. Par la suite, Laurent Champy ne cessera de développer cette approche de la station nature, j'appelle comme ça, le conduisant à s'opposer au début des années 60 au plan neige qui est porté par l'administration des ponts et chaussées et qui engendre la création des stations intégrées bien connues ici dans les Alpes et qu'il considère d'abord surtout comme des opérations financières et spéculatives. Il imagine un autre type de développement avec des structures d'accueil qui sont édifiées là où est établie la vie rurale. Cette vision de l'aménagement de la montagne, Champy la développera dans d'autres montagnes du monde, cultivant ainsi un regard critique, distancié, sur ce qui se fait dans les montagnes françaises. Et il recherche comment l'homme peut s'adapter aux contraintes de la montagne et non comment l'homme pourrait adapter la montagne à ses désirs ou à ses besoins. C'est là le fondement de la vision de Laurent Champy lorsqu'il réfléchit au devenir de la montagne. Et depuis 5 ans, Laurent Champy réfléchit au devenir des montagnes alpines, convaincu que la singularité des montagnes alpines constitue un territoire particulier par leur géographie et leur culture qui nécessiterait des approches spécifiques, loin des modèles développés, transposés d'ailleurs. C'est pour une grande part l'entretien qui est publié dans la revue L'Alpe. Au premier chef de cette spécificité, c'est la neige qui recouvre le sol en montagne plusieurs mois par an, voire plus de 6 mois. Et c'est cette neige qui intéresse Laurent Champy pour penser l'avenir, représenter les Alpes enneigées pour révéler leurs potentialités. Après avoir récapitulé l'ensemble de son parcours professionnel il y a déjà quelques années de cela, de ses projets, de ses réalisations, ainsi que ses multiples réflexions qui ont été publiées par un ouvrage qui est connu de tous les connaisseurs et du grand public aussi, qui a été rédigé par Philippe Reville, qui fut journaliste et décédé il y a 5 ans, qui avait été édité avec les éditions Guérin, qui porte le nom d'un architecte, mais qui rend très bien compte de ce parcours assez exceptionnel d'architecte et d'urbaniste consacré à la neige et à la montagne. Et depuis 2002, il a travaillé au devenir, après avoir parlé de la montagne en parlant du rêve à la réalité, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a imaginé d'abord comment il fallait résoudre la question de l'accueil touristique et a rendu compte de ses réalités, réfléchit depuis 4 ans, 5 ans, à la manière de penser l'avenir, de penser un nouveau rêve à partir de nos réalités d'aujourd'hui, celles héritées de ce parcours qu'il a eu. Et donc, il s'est lancé dans un travail de recensement, de relevé, de reconnaissance de la montagne à travers un travail notamment de cartes. Et à partir de cartes, il réfléchit et il élabore un projet de devenir à l'ensemble des Alpes. Et c'est ce projet qu'il appelle le devenir de la montagne humaniste. La montagne humaniste, confrontée à un bilan, confrontée aux interrogations de demain, à l'héritage laissé par le développement spéculatif, financier de la montagne. Chapy cherche une autre voie pour le devenir de la montagne. Il la nomme montagne humaniste, c'est-à-dire une montagne ouverte à l'homme où coexisteraient la nature et l'homme en tant qu'individu et pas en tant que collectivité. C'est ce projet-là que nous avons présenté, enfin en tout cas que nous avons présenté, que Laurent Chapy a présenté il y a quelques mois, au mois de juin, au Conseil Général, lors d'une rencontre que nous avons organisée avec la Fondation FACIM et également soutenue par la DATAR et qui a permis à Chapy de développer son projet de devenir des Alpes. Cette conférence dont je vais me taire après et je laisserai la parole à Laurent Chapy, mais cette conférence a réuni un certain nombre de personnes spécialistes de devenir de la montagne et permet de voir comment Laurent Chapy, malgré son grand âge ou à cause de son grand âge justement, peut aujourd'hui se positionner dans une prospective qui n'a rien à envier avec d'autres personnes qui recherchent aussi un avenir et qui, tout d'un coup, nous intéressent. Pour accompagner depuis plusieurs années son travail dans le cadre de notre groupe de recherche et d'enseignement à l'École d'architecture de Grenoble, nous savons comment son approche peut alimenter des leçons, des enthousiasmes, son enthousiasme communicatif à penser un monde en mouvement, en création, et qui peut nourrir des actions pédagogiques ou des recherches ou le travail des étudiants. Et ces approches alimentent donc des projections possibles vers le futur. Elles éloignent aussi des facilités rétrogrades qui sont très souvent habituelles aujourd'hui en montagne et que Chapy a résumé dans une phrase qui nous a dite lors de cet entretien et qu'il ne faudrait pas continuer à perfectionner la bougie en croyant qu'on va découvrir l'électricité. Or, en ce moment, on perfectionne la bougie, je crois, et alors qu'à mon avis, c'est avec la montagne humaniste qu'on doit découvrir l'électricité. Je pense que cette expression résume bien la position de Chapy, qui est d'avoir un regard effectivement rétrospectif, mais d'être en constante position vers le devenir. Voilà, je vous remercie. On va écouter, on va voir deux extraits de cet entretien. Pas un entretien, il parle devant 80 personnes.
Monsieur le Président, je n'ai pas vos facilités de parole et vous m'excuserez si donc je lis le petit papier qui me rappelle que dans cette salle, il s'est passé des tas de choses il y a plus de 64 ans. J'ai intitulé ce papier « Étrange coïncidence ». Nous sommes aujourd'hui fin juin 2010. Vers fin juin 1946, il y a donc 64 ans, dans ces mêmes salles, non pourvues de micro, a eu lieu la présentation par moi de mes études pour la création de la station de Couvelle. Je suis vraisemblablement le dernier survivant de cette époque qui puisse témoigner de cette journée. Je me dois donc de rappeler que le Conseil général issu de la résistance était présidé par Pierre de la Gontrie, résistant de la première heure, et que c'est Pierre Cotte, résistant aussi de la première heure, qui eut l'initiative de lancer l'idée des trois vallées. Cette proposition fut approuvée, et j'insiste là-dessus, par la totalité des membres du Conseil général. Assistait à cette séance le préfet Coldefy, rentrée de déportation. Morisseau, ingénieur des ponts et chaussées, classé en captivité comme anti-allemand, ce qui lui valut de terminer la captivité en camp de forteresse, et moi-même, mis en baraque de représailles ou en cellule d'isolement dès le début et jusqu'à la fin de ma captivité comme gaulliste. À cette réunion, personne, sauf moi, ne connaissait le site et même le nom de Courchevel, qui d'ailleurs, à l'origine, s'appelait Tovet. Il me fallait donc le situer. Pour cela, j'avais punaisé dans cette salle du Conseil général différentes peintures que j'avais faites à la colle, comme pour ayant support du papier encollé et pour pinceau mes doigts. J'avais l'habitude de le faire en captivité pour illustrer les souvenirs des courses en montagne évoquées par différents montagnards, dont Maurice Michaud pour le Crépon. La plus grande peinture, environ 2 mètres sur 3, était ici. Elle représentait les trois vallées vues d'avion. Comme je ne les avais jamais vues ainsi, l'imagination suppléait au manque de documents et c'était plus qu'approximatif. Une carte était l'agrandissement de la carte au 20 millième sur laquelle j'avais représenté en couleur décroissante les durées d'enneigement des trois vallées selon l'altitude, ce qui permettait de voir que Courchevel était enneigé sur au moins 5 mois. Je dois noter qu'à l'époque, l'enneigement skiable était à 1000 mètres en versant nord, alors que sur les cartes exposées maintenant ici, il est à 1500 mètres. Une seconde peinture à la colle représentait le versant de Saint-Bon, avec sa future station de Courchevel. J'ai allé sur le versant sud, en face, c'est la crête du Mont Jovet, faire une esquisse de ce versant nord, ce qui en garantissait l'exactitude. Une troisième peinture à la colle était la représentation de la future station avec ses remontées mécaniques, ses bâtiments et son encadrement forestier. Vision initiale qui fut vite déformée par la suite quand le Courchevel socialiste du début devint le Courchevel capitaliste d'aujourd'hui. Différents croquis faisaient état du panorama circulaire depuis la Viselle et de l'ensoleillement de la station. Le Conseil général put ainsi se faire une idée de la future et première station site vierge dont il avait approuvé le principe 6 mois avant. Je rappelle que c'était en 1946. On vivait encore en économie d'après-guerre. Aucune voiture privée ne disposait de bon décent. Les moyens matériels et les matériaux étaient inexistants. Les bons de ravitaillement sévissaient dans tous les domaines. Les transports et l'approvisionnement étaient aléatoires. La main-d'œuvre de prisonniers allemands ou autres était non qualifiée. Mais l'enthousiasme, et j'insiste sur ce mot, l'enthousiasme dominait tout. La détermination était volonté de réussite toujours présente, l'inculté plus que dynamisante. On passait outre à toutes les réglementations. On érigeait en doctrine l'oubli des autorisations. On restait indifférent devant les menaces de toutes sortes. On était dédaigneux des sanctions. On méprisait les critiques de la presse. Bien sûr, les conditions actuelles sont totalement différentes. Elles n'en sont pas moins contraignantes. Mais le but est tout aussi enthousiasmant. Il suffit donc de décider qu'on veut arriver au but.
Bravo.
Il y a un deuxième passage, si on a le temps, qui dure 10 minutes.
On doit avoir le temps pour un discours aussi rafraîchissant.
Bon, dans lequel Laurent Chapie développe plus au fond le projet de la montagne humaniste auquel il travaille, dont j'ai amené ici un exemplaire, mais qui est pour ceux que ça intéresse, qui sera disponible sur le site de la FACIM et dont il y a un projet de publication à venir. Mais je laisse exposer le contenu de sa vision sur la montagne humaniste. Il y a peut-être un temps de réglage parce que c'est sur un CD. Voilà.
Cette montagne humaniste, que vous situez, M. Chaffet, à l'échelle européenne.
Permettez-moi tout d'abord de remercier tous ceux qui m'ont encouragé ou aidé dans cette longue réflexion sur le devenir de la montagne. M. Hervé Guémard, qui a décidé de publier mes documents, Jean-François Lyon-Camp et toute son équipe de l'École d'architecture de Grenoble, avec notamment Alice Blanchard, qui ont coordonné, corrigé et complété mes documents en les réunissant par fascicules. La FACIM, avec Marine Leloup et M. Casagranda, antérieurement Mme Dominique Pannier-Leclerc, qui a édité et divulgué mes documents. La DATAR, qui a soutenu mon travail. Et enfin, ma famille, avec Claude et Geneviève, Benoît et Claire et Aurélie, qui m'entourer en permanence de leur affection. Je passe maintenant au plat principal. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas glouton et c'est quand même assez réduit. J'ai intitulé cet exposé « La montagne humaniste » dans le contexte d'un parc international des Alpes européennes. Les cartes exposées sont extraits d'un document qui est l'aboutissement d'une soixantaine d'années de parcours de terrain et d'une quinzaine d'années de réflexion en solitude sur le devenir de la montagne. Elles ont été choisies parmi plus de 150 qui couvrent l'ensemble des Alpes européennes. Elles s'inscrivent dans une vision globale des potentialités actuelles de ce massif qui intéresse 7 pays faisant partie de l'Union européenne. Dans une vision exhaustive permettant de prendre conscience des caractéristiques des massifs, elle ne traite, pour celles exposées, que des potentialités hivernales de l'ensemble des Alpes. Assemblées pour constituer une seule planche qui donne une vue d'ensemble, cette planche s'inscrira dans une douzaine d'autres pour constituer une base de réflexion en s'appuyant sur les réalités concrètes de l'heure actuelle. Ce 8e document de synthèse est en cours de réalisation. J'ai bien conscience que ce document, qui tire des conclusions des sept autres préparatoires, sera facilement critiquable vu mon âge. S'inscrivant dans 5 années de rédaction entre 1990 et 1995, on peut à juste titre penser qu'à cet âge, je ne suis plus qu'un has-been railloteur, loin des réalités actuelles. Mais à ma connaissance, personne n'a abordé ce type de réflexion à un âge moins canonique, soit par manque de maturité, soit par manque de compétences ou d'expérience, soit par des polémiques. Les quelques documents traitant du problème des Alpes européennes s'arrêtent à une monographie. On ressasse le passé, mais on se garde de faire des propositions concernant l'avenir. Je me juge peut-être à tort capable d'aborder ce problème compte tenu d'une expérience accumulée pendant plus de 50 ans de vie professionnelle axée sur ce sujet. Je sais que je peux répondre à toutes les critiques ou controverses, mes capacités intellectuelles étant encore intactes. Mais alors que mon élocution est entravée par des séquelles d'attaques cérales et mes réflexes de répartie amoindris par l'âge, mon inaptitude à dominer la fatigue ne me permettra peut-être pas de prolonger ma présence. J'ai développé dans le document en cours de rédaction ce que sous-tend les mots « montagne humaniste », « parc international », « Alpes européennes ». C'est évidemment le mot « humaniste » prêté à controverse. Je me dois donc de l'expliciter en résumant les notions qu'il recouvre, telles que définies en détail dans le document où figureront ces cartes. Document qui précise un devenir possible des Alpes européennes. Une montagne humaniste devrait mettre l'homme en tant qu'individu singulier face à elle pour lui faire découvrir toutes ses potentialités dans le domaine du ressenti sensible et émotionnel. Elle doit répondre à une demande et non la créer, comme la montagne capitaliste. Elle doit prendre en compte l'éventail qu'offrent ses potentialités de l'homme vivant de ses ressources naturelles, de l'homme sportif, de l'homme inventif, de l'homme contemplatif et de celui qui passe à celui qui y vit, de l'artiste au scientifique, au philosophe et au méditatif. Cela implique de nombreuses contraintes, s'ajoutant à celles géophysiques et à celles découlant de son exploitation actuelle. Permettre à chacun de trouver ce qu'il y vient chercher, conserver le patrimoine du passé et du présent pour comprendre son évolution au fil du temps et justifier une nouvelle vision du devenir de la montagne. Permettre à ce patrimoine de perdurer et de s'agrandir si la demande continue à se manifester, mais en veillant à ce que règne l'harmonie entre les diverses occupations de l'homme, tout en maintenant la prégnance de la montagne. Faire des propositions qui soient acceptables pour tous et pour toutes les parties en cause. Ne rien imposer, mais suggérer. Ne rien interdire, mais ouvrir toutes les potentialités. Laisser aux politiques locales, nationales, excusez-moi, je m'embrouille dans mes papiers, national, voire international, le pouvoir de décision. Cette vision personnelle de montagne humaniste est le propre de la mission d'un urbaniste. Il doit, quelles que soient les craintes, après avoir assemblé toutes les bases de réflexion indispensables, proposer des solutions qui donnent satisfaction à toutes les demandes justifiées, mais en ayant toujours pour but final l'épanouissement de l'homme. Toutefois, un des aspects de la montagne humaniste, tel que je la conçois, peut prêter à critique. Le propre de l'instant que nous vivons est l'extrême rapidité de son évolution, conjuguée à une démographie exponentielle. La notion d'aménagement durable en vogue actuellement, ne me semble pas applicable à un monde en constante perpétuelle mutation. L'adaptation à de nouvelles contraintes découlant de cette évolution permanente est peu compatible avec un aménagement durable. Pour s'y conformer, un aménagement éphémère semble beaucoup plus rationnel et logique. On peut alors le faire à titre expérimental. Donc s'affranchir des règles imposées pour un aménagement durable. Il est vraisemblable que les nouvelles règles qui en découleront répondront mieux au fait que l'on œuvre dans un milieu singulier qui impose une vision adaptée à son contexte particulier. Une nouvelle réflexion sur un permis de construire à titre expérimental devra s'en suivre. On tâtonnera, on fera des erreurs, elles seront facilement réparables et ainsi elles ne grèveront pas l'avenir en laissant à nos enfants la montagne que nous avons aimée. Ces nouvelles générations pourront alors s'exprimer librement, imprimant au fil du temps leur propre vision adaptée à un nouveau contexte. Voilà.
Merci Jean-François pour ces deux extraits tout à fait extraordinaires. C'est quand même un sacré personnage, non ? Je retiens, moi, cet enthousiasme à 95 ans, dont je me dis que quand il en avait 20, ça devait être puissance 10. Et puis je retiens ce mot de résistance aussi, dont on aurait besoin de se souvenir aujourd'hui, plus qu'avant. Ce personnage serait, si nous étions en Orient, serait probablement classé trésor culturel national. Vous le retrouverez, donc je suis vraiment très touché par ces deux bouts de film, mais je pense que tu devrais faire quelque chose pour les mettre en diffusion, parce que dans le prochain numéro de l'Alpe, nous avons consacré 4 pages à une interview avec Laurent Chappy, chose qu'on fait assez rarement, les interviews dans l'Alpe, et c'est évidemment un tout petit bout de la rencontre que nous avons faite avec lui il y a une petite année. Le complément de l'interview sera publié sur le site internet de la revue. Et je pense que si Jean-François pouvait nous mettre à disposition éventuellement ces bouts de film, peut-être qu'on pourrait compléter tout ça et faire un petit ensemble autour de Laurent Chappy. Enfin, vraiment, ce discours est, je trouve, très revigorant, très rafraîchissant pour un numéro sur l'hiver.